essayer. Bien, alors on va poursuivre notre cheminement dans le livre de Jacques, et on en arrive à Jacques 2. Alors, puisqu'il y a le quiz biblique qui s'approche, pour ceux qui ne le savent pas, on s'achemine vers un quiz biblique qui aura lieu le 26 mars sur le livre de Jacques. Donc des gens sont en train d'apprendre un chapitre, chacun un chapitre du livre de Jacques, en ce moment dans notre église. Et puis ils doivent aussi étudier un petit peu le texte. Et alors j'aimerais savoir si quelques-uns parmi vous auraient déjà repéré le titre de Jacques 2, le thème qui est abordé chez Jacques au chapitre 2. Voilà, facile. Franchement, la question était simple. On le verra tout à l'heure, effectivement. Le favoritisme dans l'Église, dans notre accueil, dans la manière d'accueillir. Alors, il y a quelques semaines, il y a eu une nouvelle élève qui est arrivée dans la classe de Gabriel. Et le matin de l'arrivée de cette nouvelle élève, Gabriel, il était tout excité. Il était vraiment content, quoi. « Je suis super content d'aller à l'école aujourd'hui, parce qu'il y a la nouvelle qui arrive. » Et alors, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui lui faisait tellement plaisir à l'idée qu'une nouvelle arrive, parce que bon, c'est bien que quelqu'un de nouveau arrive, mais enfin, cette joie qu'il avait, je me demandais quand même d'où elle venait, il m'a répondu « Ben, ça va faire une nouvelle copine !» Et je me suis dit, c'est chouette ça, c'est vraiment une jolie manière d'aborder les gens qui s'approchent. Et en fait, ceux qui, dans l'Église, abordent non seulement les nouveaux, mais plus généralement les autres, de cette manière-là, ceux qui voient déjà en eux, avant même de les connaître, un ami, un frère dans la foi, ont un atout considérable pour le grand mandat missionnaire qui nous est confié. La croissance de la communauté, mais je dirais au-delà d'elle, parce que ça c'est presque périphérique, l'avancée de l'évangile dans notre quartier, la réalité de vie transformée, on en a parlé tout à l'heure, dépend pour une grande part en fait de notre capacité à voir par anticipation chez celui qu'on ne connaît pas encore ce que Dieu lui voit déjà. Le problème c'est que dans le domaine spirituel, en réalité la bataille est rude. Et si on n'accueille pas les gens avec ce regard-là, d'autres se chargeront de les accueillir, et pas toujours avec les meilleures intentions. Et pourtant, soyons honnêtes, combien de fois, au cours de l'année passée, est-ce qu'on a été, en fin de culte, par exemple, à la rencontre de quelqu'un que nous ne connaissions pas déjà ? Non seulement un nouveau ou une nouvelle, mais peut-être aussi une de ces personnes qu'on croise depuis des mois, des années, sans avoir jamais provoqué l'occasion de nous rencontrer, de nous parler, de discuter un peu, de se saluer. Alors, ce n'est pas un blâme, hein, je ne démarre pas, bam, par un coup derrière les oreilles. Je blâme personne parce que je crois que c'est naturel. On tend tous à favoriser les relations déjà établies parce qu'on est content de se retrouver, parce que voilà, c'est chouette, on se voit qu'une fois par semaine, alors on est heureux de pouvoir discuter entre nous. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité, en tout cas, de réaliser qu'il y a peut-être un problème là. Parce que la plupart des avancées spirituelles se conquièrent par la relation. Et pourtant, on peut délaisser une partie de ces relations. Or, en les délaissant, non seulement on hypothèque les chances de se faire un nouvel ami, un nouveau copain qui arrive, mais plus tristement, quand l'Église se renferme sur elle-même, quand on reste un peu entre nous, à discuter les uns avec les autres, eh bien c'est l'Évangile lui-même qui en pâtit. Alors Jacques, effectivement, parle du favoritisme dont on peut faire preuve dans l'accueil. Et c'est parce que Jacques ne pouvait s'y résoudre qu'il a rédigé ce chapitre 2 de sa lettre, et comme d'habitude avec lui, eh bien accrochez vos ceintures parce que ça secoue. Je vais donc lire Jacques, le chapitre 2. Je l'ai sur papier parce que je voulais expliquer, je n'ai pas la version que vous êtes en train d'apprendre par cœur, donc je me la suis imprimée, c'est la version donc de la nouvelle édition de Genève, mais vous pouvez suivre dans vos Bibles sans problème, Jacques 2, qui nous dit ceci. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, je l'ai déjà dit la dernière fois, ces textes sont riches. On pourrait prêcher 2-3 prédications sur un chapitre comme celui-ci. Le sujet de ce chapitre, on l'a vu au premier verset, « Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Donc c'est clair. Jacques, en fait, est souvent très clair, je trouve. Visiblement, le problème des chrétiens auxquels Jacques s'adressait, là, c'est qu'il tendait à favoriser les riches dans leur accueil. C'est en tout cas l'exemple que Jacques prend, et je le crois suffisamment explicite pour qu'en fait, il n'y ait pas tellement besoin de le commenter. Dans l'Église, nous sommes appelés à ne pas favoriser les riches vis-à-vis des plus modestes, et nous sommes appelés à faire preuve de solidarité entre nous. Je crois que c'est très clair dans la manière dont c'est écrit. Ça se passe d'explication, dont acte. Mais ce texte va plus loin, parce que son sujet, ce n'est pas tellement le fait de favoriser les riches en particulier, c'est le favoritisme d'une manière générale, le favoritisme dans l'accueil. Et donc, on doit essayer de se poser la question quand même, de savoir si, d'une façon ou d'une autre, nous avons nous aussi cette tendance à favoriser dans notre accueil certaines catégories de personnes par rapport à d'autres. Et tout bien réfléchi, ben je crois que oui. Alors, pas de manière aussi grossière que dans le texte que nous avons lu, probablement, mais il y a tout de même cette tendance dans la plupart des églises, ce n'est pas relatif juste à la nôtre, hein, mais je pense qu'il y a cette tendance dans la plupart des églises à favoriser dans l'accueil les personnes qu'on connaît déjà. Ces personnes, on les connaît déjà ou parce que ça fait tellement longtemps qu'elles fréquentent l'église qu'elles y sont comme chez elles, elles pourraient presque venir en pantoufles, ou bien parce qu'elles arrivent avec un CV qui les précède. Bref, quand on les voit arriver de loin, on sait déjà qui elles sont avant même de leur avoir dit bonjour. Et ceux-là, on les accueille avec enthousiasme. C'est ce qui fait qu'à la fin du culte, on est très heureux de se saluer les uns les autres, en particulier ceux qu'on connaît. Et puis à côté de ça, il y a les pauvres, entre guillemets, qui arrivent sans parure ni or, et dont on ne sait pas toujours que faire. Comment est-ce qu'il faut les aborder? Est-ce qu'il faut même les aborder? Est-ce qu'on ne va pas les déranger? Peut-être qu'ils préfèrent qu'on les laisse en paix, en fait. Alors, on se tourne plus facilement vers les premiers. « Hey, comment ça va, toi? Ça fait plaisir de te voir. On mange ensemble, comme la semaine dernière ?» Et il y a, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de tout à fait naturel dans ce fait-là. Mais par naturel, je veux dire quelque chose, en fait, de conforme à notre nature pécheresse. Et Jacques nous appelle à nous élever au-delà de cette nature. Et pour ça, il nous invite à prendre trois réalités en compte dans ce texte. La première réalité à prendre en compte, c'est ce grand écart qui existe entre les valeurs du monde et les valeurs du royaume. Il y a un grand écart entre les valeurs du monde et les valeurs du royaume. Et Jacques, on l'a vu, prend ici l'exemple d'un riche qui entrerait dans l'assemblée, puis d'un pauvre, et il dit que si on donne la place d'honneur aux riches, tandis qu'on méprise le pauvre, alors nous sommes des juges aux pensées mauvaises. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous jugeons non pas selon les valeurs du royaume de Dieu, mais selon les valeurs de ce monde. Et la place d'honneur donnée aux riches, c'est ce que le monde fait. Vous connaissez peut-être ce grand dilemme qui fait que les banques ne vous prêtent de l'argent que si vous avez déjà de l'argent. Vous avez déjà remarqué ça ? Et non seulement ça, mais j'irais même jusqu'à dire que je sais que si je veux qu'une banque me prête de l'argent, non seulement il faut que j'ai déjà de l'argent, mais il faut aussi que je vienne bien habillé, que je présente bien, que j'affûte mon discours pour qu'il soit clair, précis, rassurant. Et plus mon dossier est moisi, plus mon discours doit être clair, précis et rassurant. Et il y a quelque chose là de terriblement superficiel, mais il me faut être rusé comme le renard, sage comme la colombe, parce que le monde marche comme ça. Mais le royaume de Dieu, lui, fonctionne autrement. Verset 5, « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» Donc dans l'Église, ça ne marche pas comme à la banque. Et c'est même étonnant de voir à quel point Dieu se complaît à choisir ce qui n'a pas de valeur aux yeux du monde. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, en fait, parce que si vous n'avez pas de valeur aux yeux du monde, eh bien, vous êtes le cœur de cible de l'Éternel. C'est une bonne nouvelle, ça. Quand Dieu choisit dans une fratrie celui qui va devenir roi sur Israël, il choisit qui ? Le plus chétif. Celui qui est tellement insignifiant aux yeux du monde qu'on n'a même pas daigné le présenter au prophète qui a fait le déplacement. Au point que le prophète a dû dire, mais ils sont tous là, les frères, là, parce que je sais que le futur roi d'Israël est là, mais je ne le vois pas. Ah si, ben si, il y a le petit là, mais il est au champ, il s'occupe des moutons, lui c'est... David était au champ, on ne l'avait même pas convié. On ne l'avait pas convié. Que fait Dieu ? Ben, en fait, il n'appelle pas les gens selon leur CV. Il bâtit le CV des gens qu'il appelle. Il nous appelle, il nous prépare, il nous forme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il nous envoie la fleur au fusil. Avant de devenir roi, David a été formé. Il a été formé à la dure. Il avait reçu cet appel. Mais avant de monter sur le trône, il a dû servir le roi Saül, qui n'a eu de cesse de vouloir l'assassiner. Ça vous forme un caractère. Et c'est après que David est devenu roi sur Israël. Il n'empêche que cet appel, il a été posé sur un jeune homme insignifiant que personne ne remarquait. L'appel a été posé sur celui qu'on regarde arriver de loin sans savoir qui il est. Il n'a ni prestance, ni CV qu'il précède. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça ? Eh bien parce que celui qui n'a pas de valeur aux yeux du monde, quand Dieu l'élève, c'est à Dieu qu'il rend gloire. Parce qu'il sait très bien d'où il vient, il sait qui l'a formé, et il sait que tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il est devenu, il l'a reçu, il l'est devenu par pure grâce de Dieu, pas par ses propres forces. Le monde ne l'observait même pas. Autrement dit, Dieu prend plaisir à appeler les humbles. Sauf que si nous ne prenons pas le temps de regarder les gens comme Dieu les regarde, eh bien nous, on discute avec toute la fratrie qu'on connaît bien, dont on connaît le CV, qu'on a vu arriver de loin, et puis on oublie le petit David qui est au champ. Eh bien Jacques nous dit que nous devons avoir les mêmes égards pour ceux que nous voyons arriver de loin que pour celui dont on oublierait presque l'existence. Parce que, et ça fait un peu mal, la deuxième réalité à prendre en compte, c'est que faire preuve de favoritisme, c'est un péché. C'est ce qu'on voit dans les versets 8 à 13, c'est un peu violent quand on y pense, mais c'est bien ce que Jacques nous dit dans ces versets 8 à 13. Aimer son prochain comme soi-même, nous dit-il, c'est super, c'est très bien, il faut le faire évidemment. Mais si on a une vision sélective de notre prochain, si on ne voit que le riche seulement, ou que le pauvre, ou que le jeune, ou que le vieux, ou que celui qu'on connaît, alors nous commettons un péché. Et nous sommes à ce titre des transgresseurs de la loi. Dieu, en effet, ne fait exception de personne. On le voit dans différents endroits, notamment dans Actes 10, 34 ou Romains 2, 11. C'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises. Il ne fait exception de personne, ça veut dire qu'il ne favorise personne. Il ne fait pas de différence entre les personnes. Et donc, si Dieu ne favorise personne, je ne dois moi-même, évidemment, favoriser personne. Et le truc, c'est que c'est très concret, en fait. C'est pas juste des mots, c'est pas une idée abstraite, c'est pas une idée en l'air, parce que, et c'est la troisième réalité à prendre en compte, c'est que notre foi, nous dit Jacques, s'exprime par nos œuvres. Alors ça, c'est les versets 14 à 26, et je suis un peu ennuyé, parce que ce qui attire l'attention dans ce chapitre, évidemment, c'est cette affirmation du verset 24 où Jacques dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Et on se dit « Bah mince !» On se dit « Mince !» parce que l'apôtre Paul dit quant à lui en Éphésiens 2, par exemple, versets 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ça n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Et il y a même d'autres passages où Paul dit textuellement que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. En Romains 3, 28, par exemple. Alors, l'homme est justifié par les œuvres ou il n'est pas justifié par les œuvres ? Il faut savoir. Donc avant d'aller plus loin, il faut tordre le cou à ce faux dilemme, mais il faudra aussi aller plus loin parce que, en fait, ce n'est pas le sujet de Jacques, c'est pour ça que je suis ennuyé. Je suis obligé de passer par là parce qu'il faut résoudre cette question-là, mais ce n'est pas la question centrale, en fait, ici. Jacques n'est évidemment pas là pour contredire l'apôtre Paul, il est là pour autre chose, donc il faudra qu'on revienne à cette autre chose ensuite. Mais pour ce qui est de ce sujet, je crois qu'on peut partir de l'apôtre Paul. Ce que Paul nous dit, c'est que l'obéissance à la loi, donc les œuvres, le fait de vouloir, on va dire, gagner son salut, eh bien, ça nous permettra jamais d'accéder au salut. Ça n'est pas possible, parce que quand on s'efforce d'obéir, la seule chose qu'on observe, c'est qu'on n'y arrive pas, en fait. C'est qu'on transgresse la loi, à un moment ou à un autre. On n'y arrive pas, on n'est pas à la hauteur. On est incapable de respecter toute la loi. Or, et c'est bien ce que nous dit Jacques, celui qui pèche contre un seul commandement devient coupable de tous parce qu'il a transgressé la loi. Nous sommes tous pécheurs. Voilà, le salut, c'est pas par les œuvres, c'est pas possible. Celui qui s'y essaye, eh bien, il se rend compte que c'est pas possible. Le salut, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce, c'est un cadeau. Dieu nous en fait cadeau. Et ce cadeau, on le reçoit au moyen de la foi. C'est ce que dit Paul. Que dit Jacques, lui ? Eh bien, lui, je crois qu'il nous dit ce qu'est la foi. Et une fois encore, ce qu'il nous dit, c'est que la foi, c'est pas du blabla. ce n'est pas des paroles en l'air. Et il l'illustre bien quand il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Voilà, tu as raison, il n'y a qu'un seul Dieu, tu as raison. Mais les démons le croient aussi. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre toi qui crois qu'il y a un seul Dieu et les démons qui croient la même chose? Ce qui fait la différence, c'est que toi, tu ajustes ta vie à ce que tu crois. Les démons, ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils vont finir dans la géhenne, qu'ils vont finir en enfer, si vous préférez. Mais toi qui as la foi, en principe, tu ne trembles pas parce que tu te repens, que tu rends grâce à Dieu pour le sacrifice de son Fils et que tu le suis comme ton Seigneur et Sauveur. Autrement dit, tu n'es pas sauvé à cause de tes œuvres, mais tu œuvres en conséquence de ton salut. Alors, on en revient en fait à ce thème que j'ai déjà abordé plusieurs fois. Notre spiritualité, c'est une spiritualité incarnée. Notre foi, ce n'est pas un concept qui reste à l'état de parole désincarnée, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas du blabla éthéré qui ne change rien à notre vie ici-bas. Ou bien elle prend chair, ou bien elle ne sert à rien. La foi est vaine. J'espère que ça a été clair. Sinon, vous pouvez venir me voir. J'ai une manière d'expliquer ça avec une chaise aussi. S'il y en a qui sont plus visuels, je vous montrerai. Bon. Maintenant, revenons-en à nos moutons, si vous permettez. Parce que le sujet, finalement, c'est que ce n'est pas le tout de dire qu'on ne veut pas faire de favoritisme dans l'accueil. La foi sans les œuvres est morte. Si on se contente de dire, non, il ne faut pas faire de favoritisme, ce n'est pas bien, il ne faut pas. Ça ne suffit pas. L'œuvre de la foi, ici et très concrètement, c'est d'avoir cette démarche volontaire d'accueillir avec tous les égards une personne qui nous est inconnue. Exactement comme si on l'avait vu arriver de loin, comme un Gabriel qui dit « Oh, une nouvelle copine !» Super. L'œuvre de la foi, c'est de considérer ce petit David qu'on a jusqu'ici toujours eu peine à voir. Et je suis sûr qu'il y a des gens dans l'Église que vous croisez depuis des années sans jamais avoir entamé la discussion. Eh bien, les amis, ce dimanche, c'est votre dimanche. C'est l'heure. Allez à la rencontre de votre David. Il y en a plein, sûr. Et au-delà de ce dimanche, on peut peut-être se donner ce défi, d'ailleurs. Chaque dimanche, les premières minutes après le culte, je les consacre à aller saluer une personne que je ne connais pas très bien ou avec qui je n'ai jamais parlé. Il suffit de s'approcher, de se présenter, puis après on peut enchaîner par « Je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion d'échanger. Ça fait longtemps que vous fréquentez l'Église ? Ah, 20 ans ? Ah, comme moi. Bon. » Voilà. Mais ce n'est pas grave. On va avoir des moments comme ça, plein. Moi j'en ai... C'est horrible parce que ça fait quand même 2 mois maintenant que je suis là, et puis il y a des tas de gens qui ont l'impression de bien me connaître, et puis la réciproque n'est pas toujours vraie. Et on dit « Ah, Laurent, ça va ?» Oui, mais je ne sais pas qui tu es. Bon. Ça arrive. C'est un petit moment à passer comme ça. Et ce n'est pas grave, en fait. C'est pas grave. On peut se faire grâce les uns aux autres. Ça fait 10 fois que je te salue, tu ne me reconnais toujours pas. Ce n'est pas grave. Je t'aime quand même, tu es mon frère. Et je vais t'inviter à manger. Comme ça, on va faire connaissance. Et on va passer ce cap-là. On l'assume. On fera mieux la prochaine fois. Nous ne vivons pas selon les valeurs du monde, nous vivons selon celles du royaume. Seulement, soyons honnêtes, la démarche ne nous est pas toujours spontanée. Le plus simple, c'est évidemment d'aller vers celui que je connais. Et le Seigneur nous appelle pourtant à une tâche plus belle, plus grande, plus noble. Ceux qu'on voit venir de loin, nous dit-il, ne sont pas à favoriser. Alors, en fin de culte, je fais cette démarche. Celui que je ne connais pas, je le regarde tel que Dieu le voit. Et tel un enfant, je dis « Ah, un nouveau frère, une nouvelle sœur. Allons à la rencontre de ce qu'il a sur le cœur. » Je vais prier. Seigneur, c'est vrai, nous avons vraiment à cœur de ne pas faire de favoritisme dans l'Église. Pour être très honnête, Seigneur, on ne se sent pas tellement concerné par la question du riche et du pauvre. On n'a pas l'impression de favoriser quelqu'un parce qu'il aurait plus d'argent ou je ne sais quoi, qu'il présenterait mieux. Mais il nous faut admettre que nous favorisons certains par rapport à d'autres. Il faut admettre, Seigneur, que nous passons du temps avec certains plus facilement qu'avec d'autres. Il faut admettre que ça nous coûte un peu d'aller à la rencontre de celui qu'on ne connaît pas, parce qu'on a peur peut-être de le déranger, parce qu'on ne sait pas qui il est, peut-être parce qu'on a quelques craintes aussi qu'il vienne bousculer l'ordre établi. On est dans une espèce de belle harmonie entre nous, Seigneur, et c'est toujours un risque d'accueillir le nouveau. Mais on a vraiment ça à cœur, Seigneur, en fait. C'est ce qu'on veut, Seigneur. Et on sait que, en réalité, on ne le fait pas naturellement. Voilà, naturellement, ce qui nous vient, c'est d'aller vers les gens qu'on est heureux de voir. Et ceux qu'on est heureux de voir, c'est ceux qu'on connaît déjà, en fait. Je te prie, Seigneur, de changer notre regard. Vraiment qu'on puisse voir celui qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore comme un ami déjà, en puissance, un frère, une sœur, quelqu'un que toi tu veux voir intégrer la famille. Seigneur, aide-nous à poser sur les personnes qu'on ne connaît pas ce regard que toi tu poses et à les aborder en conséquence. Bienvenue, merci d'être là, c'est chouette, je suis heureux de te rencontrer. Seigneur, aide-nous à nous faire grâce les uns des autres aussi, parce que c'est vrai que parfois on ne se reconnaît pas, même quand on s'est croisé pendant des années, Seigneur. Que personne ne soit blessé par ça, mais que chacun fasse grâce à son frère, à sa sœur, pour cette volonté d'accueil, de s'accueillir les uns les autres, et qu'on puisse vraiment apprendre à nous connaître en vérité, en profondeur, qu'on puisse découvrir où sont les David de notre Église. Ceux qu'on, je dirais pas qu'on méprise, mais peut-être qu'on ignore simplement, ou auxquels on n'a pas pensé, parce qu'en fait on les a connus tout petits, et puis on n'a même pas vu qu'ils ont grandi. Seigneur, aide-nous à les voir, aide-nous à aller les chercher au champ là-bas, parce que c'est ceux-là que toi tu veux voir arriver, tu veux accueillir toi dans ton Église. Peut-être tu as un appel sur leur vie, Seigneur, et voilà, nous voulons pouvoir prendre soin d'eux aussi. Seigneur, je te remets cette église, elle t'appartient. C'est toi qui l'as bâtie, Seigneur. Et je te remercie pour l'œuvre que tu fais en chacun de nous. Et je te prie vraiment pour que tous nous puissions voir cette œuvre et voir cette œuvre aussi dans la vie des autres. Et pour ça, nous avons besoin de nous rencontrer. Seigneur, voilà, aide-nous simplement à faire ce pas tout simple de nous saluer les uns les autres, en particulier ceux qu'on ne connaît pas. Au nom de Jésus. Amen.